Radio Kapi.
Le journal Jacques-Yves Molima.
Début de l'opération de bouclage des véhicules automoteurs pour contrôle des documents ce lundi dans la ville de Goma, c'est sur instruction du gouverneur de province. Conséquence, plusieurs véhicules sans documents mis aux fourrières, d'autres ont carrément déserté leurs artères de la ville. Et puis l'Assemblée provinciale du Tanganyika devrait rouvrir ses portes demain mardi 11 octobre. C'est pour élire un nouveau bureau sous la conduite du bureau d'âge. C'est sur ordre du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, contenu dans un télégramme parvenu dans la province. Enfin, après 30 ans sur financement du gouvernement provincial, la régie des eaux a servi de l'eau potable à la population du Kamopaya. Nous sommes dans la ville de Kindu. Pour parler de cet exploit, nous recevons dans cette édition du journal Pascal Bokanga Bongondo, directeur provincial de la régie des eaux Maniema. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, l'opération de bouclage des véhicules automoteurs a commencé dans la ville de Goma ce lundi. C'est une mesure d'application de l'instruction du gouverneur de province qui a été annoncée la semaine dernière. Depuis 6 heures locales, les agents civils et militaires et policiers en charge ont installé plusieurs barrages de contrôle sur les principales routes de la ville. Du coup, des centaines de véhicules sans documents exigés sont déjà arrêtés et nombreux autres ne sont pas carrément en circulation. Bernard Nyangi.
C'était une lutte pour obtenir une place à bord des bus de transport en commun ce lundi sur certains axes de Goma. Dès les premières heures de la matinée, on a déjà constaté très peu de taxis en circulation du fait que nombreux conducteurs n'ayant pas de vignette et permis de conduire qui sont exigés ont carrément décidé de garder leurs engins chez eux. Conséquence, le prix d'une course qui était à 500 francs congolais à bord des minibus par exemple est passé à 1000 francs congolais ou 800 francs congolais. Le secrétaire provincial de la Sekonor Kivu reconnaît tout de même que l'autorité provinciale leur avait averti 2 mois à l'avance. Luboula Ramazani.
Il y a plus ou moins 60 jours que les autorités provinciales kurubaines nous avaient informé de ce bouclage. De notre part, nous avons vulgarisé ce message auprès de nos membres, dont la plupart ont d'ailleurs payé. Si vous passez à la mairie, il y a beaucoup des opérateurs économiques qui attendaient jusqu'à ce que le bouclage soit déclenché pour qu'ils aillent payer.
Cette opération visant le recouvrement forcé des taxes et impôts relatifs à la sécurité routière pour l'exercice fiscal 2022, annoncé le 6 octobre dernier par le gouverneur militaire, concerne toute la province du Nord Kivu. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
On reste dans la ville de Goma au Nord Kivu. Au total, 5 préfets des études de quelques grandes écoles de la ville viennent d'être frappés par la suspension du travail pour une durée requise par la loi. Les chefs de division provinciale de l'EPST les accusent d'insubordination à la décision du ministère de l'EPST interdisant la vente des uniformes, des logos, des cahiers de communication et des journaux de classe dans leurs écoles. Autre nouvelle, les travaux de construction des 6 km de route sur la route nationale numéro 2 entre la ville de Bukavu et l'aéroport de Kavumu évoluent normalement. C'est du moins ce que dit le chargé de mission du chef de l'État qui a visité les chantiers au niveau des Kazingo. Pacifique et KH exhorte l'entreprise Sokok qui exécute les travaux de tout faire pour achever ce tronçon avant la fin de l'année. Jean Kassami pour les détails.
Ces travaux de construction de route sur l'axe Kazingo-Amsar ont repris 3 mois après avoir été suspendus par manque de financement. Les chargés de mission du chef de l'État renseignent que la reprise a été rendue possible grâce au plaidoyer de la première dame. Pacifique Kasha souhaite que les travaux arrivent à leur terme avant la fin de l'année.
Nous attendons de que la population de Bukavu puisse fêter la bonne année ici avec ces routes et ces travaux terminés. Donc on espère que d'ici la fin de l'année, en tout cas, pour ce qui est de la RN2, nous aurons terminé et que éventuellement l'un ou l'autre tronçon du centre-ville de Bukavu, notamment le quartier Mumba, aura été entamé. Nous allons réaliser ces travaux jusqu'au bout.
Deux services de l'État, l'Office des routes et l'Office des voiries et drainage, veillent au quotidien sur la qualité des travaux exécutés par la Société congolaise de construction Sokok. Notons que les travaux sont réalisés dans le cadre de la poursuite du programme des 100 jours du chef de l'État. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Au Kassai oriental, une semaine après avoir éclairé la ville pendant quelques heures, Mbujimayi est replongé dans le noir. Au niveau de l'énergie du Kassai, Enerka, entreprise qui commercialise commercialise l'énergie électrique. L'on affirme que quelques pièces sont encore tombées en panne et elles sont en train d'être fabriquées au niveau des polygones minières de la société minière de Bakwanga Miba. Le directeur administratif et financier de NRK signale par ailleurs que certains techniciens de la Miba sont venus en appui à ceux de NRK pour décanter la situation. Eric Loabé annonce la fin des travaux d'ici 72 heures. Eric Loabé, directeur administratif et financier de NRK, s'exprime au micro d'Esther Ndalafina.
Il y a pratiquement une semaine, vous avez vu quand même, il y a eu un petit changement. On avait mis une machine. Alors on s'était dit qu'on force pour mettre la deuxième machine. Et hier, qu'on a déposé les pièces qu'on a récupérées au polygone minier. Et c'était pour remplacer pour la deuxième machine. Alors, les techniciens ont senti qu'il y a un bruit anormal dans la machine. Ils ont voulu arrêter. C'est pour cela que vous voyez qu'on est en train d'aller au polygone pour déposer les groupes électrogènes de façon que qu'on termine ces pièces dans 3 heures ou 4 heures. Pratiquement dans 6 heures, dès qu'on termine, il y a les techniciens qui sont là, qu'on a demandé d'autres techniciens pour venir renforcer pour la deuxième machine. Nous voulons mettre les deux machines au même moment pour éviter qu'une seule machine, il y a des équilibres. À ce moment-là, dans 48 heures, on fait la fermeture, on met les deux machines au même moment. Qu'on a mis une équipe spéciale pour que les deux machines travaillent simultanément. On va faire de notre mieux là. Dans 48 heures ou dans 72 heures, pour vite terminer le problème.
L'Assemblée provinciale du Tanganyika sera réouverte ce mardi à Kalemi. Dans un télégramme, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur demande au bureau d'âge de cette institution en province de convoquer une séance plénière. L'objectif est d'organiser l'élection du nouveau bureau. Le point avec Paul Mounanga.
Dans ce message officiel du 7 octobre dernier, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur demande au bureau d'âge de l'Assemblée provinciale du Tanganyika de convoquer une séance plénière. Daniel Asselo précise que cette plénière aura comme mission d'organiser l'élection du nouveau bureau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika et de permettre ainsi l'ouverture de la session de septembre 2022 par les nouveaux bureaux. À la suite de ce télégramme, le premier secrétaire de l'Assemblée provinciale demande aux députés provinciaux de se présenter au siège de l'institution pour une plénière qui sera dirigée par le bureau d'âge. Pour rappel, le 28 juillet dernier, le ministre national de l'Intérieur avait fermé l'Assemblée provinciale du Tanganyika suite à des actes de troubles à l'ordre public et des actes de vandalisme au siège de l'Assemblée provinciale. Deux bureaux se sont affrontés, chacun revendiquant la responsabilité de diriger cette institution en province. Kalemi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Autre nouvelle, dans la province du Maniema, la prison centrale de Kasongo vient d'enregistrer encore ce week-end un nouveau cas de décès. Décès confirmé par le directeur de cette maison carcérale. En dehors des maladies, les prisonniers font face à la malnutrition par manque de subventions. La nouvelle société civile congolaise Antenne de Kasongo appelle à la conscience des uns et des autres afin de prendre leurs responsabilités en main en faveur de ces prisonniers. Florence Kizalunga.
Selon le directeur de la prison de Kasongo, Zakwani Issa, le détenu qui est mort s'est condamné à 7 ans, poursuivi pour viol d'enfant. La diarrhée aiguë et la malnutrition l'ont emporté. Les coordonnateurs de la nouvelle société civile congolaise dénoncent le manque de subventions à cette prison plus d'une année. Maître Richard Saloumoulutipa.
La prison centrale de Kasongo, comme une prison reconnue en République démocratique du Congo, doit bénéficier des subventions comme toutes les autres prisons de la République. Mais il s'est fait malheureusement que depuis plus d'une année, la prison centrale de Kasongo ne bénéficie plus de ces subventions-là. On se pose la question, est-ce qu'elle est mise aux oubliettes? Est-ce que c'est par mauvaise volonté des autorités nationales ou soit c'est par mauvaise volonté des autorités provinciales? Parce que je ne crois pas qu'un gouvernement responsable comme celui de la République démocratique du Congo ne puisse pas envoyer des subventions à la prison centrale de Kasongo reconnue plus d'une année. Nous voudrions interpeller au gouvernement central de prendre ses responsabilités main pour la prison centrale de Kasongo.
Il est à rappeler que après la mort de ces derniers, il y a trois autres détenus qui en souffrent et risquent aussi de mourir, conclut notre source. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Et puis, 48 heures après l'évasion de près de 200 détenus à la prison centrale de Matadi, le cadre de concertation de la société civile du Congo central redoute un regain d'insécurité. Son président Jules Benga a, dans une déclaration faite à la presse ce dimanche, indiqué que l'évasion de ces prisonniers, parmi lesquels des bandits de grand chemin, a plongé la population dans la peur. Pour ce faire, cette structure citoyenne appelle en premier lieu les autorités provinciales à tout mettre en œuvre pour traquer ces évadés et lance un appel au gouvernement central pour une meilleure sécurisation de la prison et l'amélioration des conditions carcérales. Le gouvernement provincial du Congo central, de sa part, appelle la population au calme. Il dit prendre des dispositions pour faire régner la sécurité dans toute la province. Le point avec Nana Plurichimambo.
Dans sa déclaration, les cadres de concertation de la société civile du Congo central affirment que depuis l'évasion des 202 détenus survenus le 7 octobre dernier, la population des Matadi en particulier, celle du Congo central en général, vit la paire au ventre, car se trouvant en insécurité avec la présence à ses côtés des bandits des grands chemins. Cette structure citoyenne appelle les autorités compétentes à prendre les dispositions pour traquer ces évadés et pour répondre aux évasions à répétition dans les prisons du Congo central. Gilles Benga en est le président.
Des autorités provinciales à tout mettre en œuvre pour récupérer ces hommes sans foi ni loi qui courent les rues. La société civile lance un appel aux autorités nationales pour une meilleure sécurisation de la prison centrale de Matadi où les évasions deviennent une monnaie courante.
Pour sa part, le gouvernement provincial appelle la population au calme et rassure quant aux dispositions sécuritaires. Anne-Marie Tsassa en est le porte-parole.
25 évadés ont déjà été appréhendés et la traque des autres fugitifs continue. La situation étant sous contrôle, la population de Matadi et du Congo central est appelée à garder son calme.
Rappelons que cette énième évasion massive des prisonniers occasionnée par une dispute entre des policiers qui montaient la garde sur les miradors a fait 2 morts et plusieurs blessés. Matadi, Nana Plurichimambu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Moins de 2 mois après, le président Emmanuel Macron, la première ministre française, est en Algérie depuis dimanche pour son premier voyage à l'intérieur, à l'international. Visite officielle de 2 jours d'Elisabeth Borne, accompagnée d'une quinzaine de ministres français pour poursuivre le réchauffement entre les deux pays après des mois de tensions diplomatiques. Une étape pour bâtir des coopérations plus denses encore entre la France et l'Algérie, selon la chef du gouvernement français. Et puis, de nombreuses villes étaient bombardées en Ukraine ce lundi matin, selon la présidence. La capitale Kiev était visée par les premières frappes depuis plus de 3 mois, alors que le président russe Vladimir Poutine s'apprête à réunir son conseil de sécurité 2 jours après l'explosion sur le pont de Crimée. Et puis, en plus bref, de droits de l'homme, le prix Vaclav Havel décerné à l'opposant russe Vladimir Kara-Murza.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est Pascal Bokanga-Bongondo, directeur provincial de la régie des eaux Maniema. Après 30 ans sur financement du gouvernement provincial, la régie des eaux a servi de l'eau potable à la population du camp Mopaya. Pour en parler, nous recevons donc Pascal Bokanga-Bongondo et qui s'entretient ici avec Florence Kizalunga. Suivez.
Monsieur Pascal Bokanga, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
Après un long moment de manque d'eau, la régie des eaux vient de donner de l'eau potable à la population du camp Mopaya et ses environs. Qu'est-ce que vous avez fait pour que cette population puisse avoir cette eau?
Oui, effectivement, ce matin, nous venons de remettre 2 bonnes fontaines à la population du camp Mopaya. Une population en manque d'eau depuis 30 ans. Nous avons posé une extension de 250 mètres et construit 2 bonnes fontaines avec 8 robinets, en termes simples. En fait, dans le camp, c'est une population hétérogène qui habite. Le camp a été spolié, il y a la police et les civils qui y habitent.
J'ai demandé quel miracle que vous avez fait pour servir cette population en eau potable.
Non, il n'y a pas de miracle, c'est une action qui a été planifiée. C'est sur le financement de ce gouvernement provincial que nous avons pu construire les 2 bonnes fontaines et poser cette extension de 250 mètres, madame.
C'est bien de construire les bornes fontaines. Maintenant, comment est-ce que ces bornes fontaines vont fonctionner étant donné que la ville de Kindu a un sérieux problème de courant électrique?
Non, c'est une population qui a de la chance. Ça veut dire quoi? La population vit à proximité de notre conduite mère. Là, l'eau coule à flot. Il y a beaucoup d'eau dans ce milieu-là. Et quand bien même il n'y a pas l'énergie électrique, la centrale Rutshuru-Kuru pose encore des problèmes. Mais avec le groupe électrogène, nous sommes en train d'arroser sérieusement cette population-là.
Mais la régie des eaux a toujours crié au manque de moyens pour alimenter son groupe électrogène.
Oui, mais madame, c'est pas crié, c'est une vérité, une réalité en face. Nous avons un groupe électrogène de 345 kVA. Et quand nous y mettons 200 litres, c'est pour fonctionner pendant 8 heures seulement. Et quand nous fonctionnons pendant 8 heures, certainement que la partie haute peine à avoir de l'eau potable. C'est ça le mode de fonctionnement à l'heure qu'il est. En attendant que la centrale Lutulukuru fonctionne normalement, qu'on ait du courant électrique, nous sommes en train de peiner. Voilà pourquoi, madame, dans certains coins, nous ne sommes pas capables d'arroser correctement, donner de l'eau potable à tous abonnés-là, parce que nous ne fonctionnons pas normalement.
Maintenant, que faire pour avoir de l'argent? Vous êtes une société commerciale.
Oui, madame, je ne cessais de dire que l'eau que nous vendons, pour insister, a une valeur marchande. Nous sommes en train de vivre une situation paradoxale. Quand il n'y a pas d'eau dans la ville, non, les gens parlent, ils injurient même. Et quand nous donnons de l'eau potable à la population, très peu payent nos factures de consommation. Nous avons les grands abonnés qui peinent à payer, qui paient difficilement, en commençant par le tout petit abonné domestique ordinaire, jusqu'aux hôteliers, et même le gouvernement provincial ne me permettent pas de pouvoir avoir correctement, enfin payer correctement les factures de consommation. Voilà pourquoi nous avons décidé, madame, le lundi 10 octobre prochain, nous amorçons non seulement que nous mettons une nouvelle facturation en recouvrement, et nous serons obligés de procéder par un recouvrement forcé, de sorte que nous puissions avoir un peu plus de moyens, acheter le carburant et arroser correctement cette population qui manque de l'eau potable.
Et dans la ville de Kindu, dans d'autres coins, il y a ceux-là qui n'ont pas encore accès à l'eau potable de la régie des eaux. Qu'est-ce que vous pensez faire pour eux, comme vous venez de faire pour la population du Kamopaya?
Madame, je disais que c'est pas l'eau qui manque. Nous ne sommes pas incapables de produire de l'eau potable, mais c'est plutôt l'argent qui nous manque. Si aujourd'hui, il y a un financement du gouvernement provincial et un financement d'une grande organisation internationale, non, ceux-là vont devoir avoir de l'eau. C'est l'argent qui nous manque pour pouvoir poser des extensions ou étendre nos extensions pour que nous puissions correctement arroser tous les quartiers à manque d'eau, madame.
Et même la direction générale de la régie des eaux ne peut pas nous aider?
Mais madame, nous vivons parce qu'il y a une direction générale. Tout ce que nous avons ici, les besoins en fonctionnement, les salaires du personnel, le carburant, ça c'est le gouvernement général de la régie des eaux qui est en train de fournir. Ici, nous insistons pour les intervenants locaux. Ça veut dire que l'eau n'est pas l'apanage de la régie des eaux. Il y a plusieurs acteurs qui doivent mettre la main dans la pâte pour que nous puissions avoir de l'eau potable dans la ville. En dehors de la direction générale, nous sommes en train de lancer et tendre la main à tous les opérateurs, à tous les acteurs pour que tout le monde puisse intervenir et que la ville de Kindu soit suffisamment arrosée. Voilà, madame.
Merci à vous, messieurs. Pascal Bukanga.
Merci, madame Florence.
Voilà, c'est la fin de cette édition mise en onde par Alain Goy, coordonnée par Élisée Chikota sous la supervision de Ben Kabamba. Merci pour votre particulière attention.